juste un plaisir, une joie d'être parmi vous, de revoir quelques visages connus et de pouvoir annoncer la parole de Dieu ce matin. Je vous apporte les salutations. Alors, ça grésille, est-ce que c'est de ma faute? Je ne sais pas. Voilà. On va. Peut-être. Hop, je mets en mode avion. Pas sûr que ça soit ça. Ah oui. Je suis un pasteur connecté, que voulez-vous? C'est peut-être ça. Ah oui, on dirait. Très bien. Je vous apporte les salutations de mon église, enfin mon église, de l'église où je suis pasteur, à Compiègne, en Picardie, donc nord de Paris. Qui se rassemble en ce moment même, qui a son propre culte. Et je suis très heureux qu'elle m'ait laissé partir pour être parmi vous. Et je vous apporte aussi les salutations du Conseil de la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France, dont vous faites partie, un conseil qui m'envoie également, notamment pour cette Assemblée générale cet après-midi, pour pouvoir être un soutien et une écoute aussi pour votre communauté. Alors, comme Eric l'a dit à l'instant, on m'a un petit peu imposé un sujet ce matin, mais je le reçois avec joie, une thématique dans votre parcours de l'Avent qui vous conduira jusque Noël. Et la thématique, comme on l'a entendu en tout début de culte, c'est la foi. La foi. Alors, pour répondre à cette demande qui m'a été faite, j'aimerais que nous méditions autour d'un texte, un texte qui est quand même un petit peu difficile dans les Écritures, mais qui, il me semble, nous dit quelque chose de vraiment beau et de vraiment essentiel, même, autour de la foi chrétienne. Il nous dit l'essentiel, quelque part, de la foi chrétienne. C'est une leçon magistrale que Jésus offre à ses disciples qui était un petit peu dans la panade et qui se posait des questions. Dans ce texte, Jésus va appeler ses disciples à développer une foi, et pas n'importe laquelle, une foi capable de déplacer les montagnes. Pour beaucoup, évidemment, une telle idée sera peut-être saugrenue, voire culpabilisante, parce qu'on sait tous qu'il est impossible de déplacer des montagnes. Nous savons même qu'il est extrêmement difficile dans nos propres vies de changer, de déplacer, ne serait-ce qu'un tout petit problème, une toute petite problématique. Alors que Jésus nous annonce la possibilité par la foi de déplacer des montagnes, cela peut nous sembler non seulement un petit peu saugrenu, mais peut-être même un petit peu humiliant pour nous. Mais ce matin, avant d'étudier ce passage, ce texte, et de nous laisser interpeller par lui, j'aimerais que nous puissions chacun nous poser une question, cette question. Quelle montagne Jésus désire-t-il que je déplace dans ma vie aujourd'hui? Par exemple, quelle est cette montagne qui aujourd'hui vient entraver ma relation avec lui? Qu'est-ce qui, dans ma vie de foi, est un obstacle à ce que Dieu voudrait pour moi? À ce que Dieu voudrait accomplir dans ma vie ou que moi j'accomplisse pour lui à travers ma vie? Qu'est-ce qui vient freiner? Qu'est-ce qui vient diminuer ma joie, la joie de mon salut? Qu'est-ce qui vient m'empêcher de vivre pleinement ma vie de foi et ma vocation chrétienne? Est-ce que, par exemple, je doute de son amour pour moi? Est-ce que j'ai peur? J'ai peur de l'avenir, j'ai peur de ce qu'il attend de moi, j'ai peur de faire ce pas de plus dans ma vie avec lui. Est-ce que je manque de confiance dans sa bonté, dans sa sagesse? Ou encore, est-ce qu'il y a un péché, peut-être un péché récurrent dans ma vie que je n'arrive pas à déplacer, dont je n'arrive pas à me débarrasser? Je vous invite à prendre juste quelques instants, quelques secondes. Peut-être qu'en m'écoutant, vous avez déjà identifié une telle montagne dans votre vie. Mais prenez cet instant pour identifier cette montagne qui semble inamovible dans vos vies de foi ou dans votre vie d'église. Cette montagne qui fait obstacle à Dieu. Et je vous invite maintenant à lire un texte donc qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 17. Nous lirons des versets 14 à 20. Quand ils arrivèrent là où était la foule, un homme s'approcha de Jésus, se mit à genoux devant lui et dit: Maître, aie pitié de mon fils, il est épileptique et il a de telles crises que souvent il tombe dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Jésus s'écria: Gens mauvais et sans foi que vous êtes, combien de temps encore devrais-je rester avec vous? Combien de temps encore devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant ici. Jésus menaça l'esprit mauvais. Celui-ci sortit de l'enfant qui fut guéri à ce moment même. Les disciples s'approchèrent alors de Jésus en particulier et lui demandèrent: Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Jésus leur répondit: Parce que vous avez trop peu de foi. Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne: Déplace-toi d'ici à là-bas, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu, je vous invite à prier quelques instants. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole, merci parce qu'elle nous rejoint ce matin autour de cette thématique de la foi. Tu vois, nous sommes là parce que nous avons la foi ou parce que nous désirons l'avoir ou parce que nous nous y intéressons. Mais ce passage vient nous questionner, nous interpeller, peut-être même nous chambouler. Alors donne-nous des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, des cœurs pour recevoir ta parole ce matin, pour recevoir ce que tu veux nous dire. Sois présent au milieu de nous par ton esprit et en nous par ce même esprit pour venir toucher ces endroits dans nos vies qui ont besoin de l'être, pour pouvoir être transformés par toi, toujours plus à ton image, à l'image de ton Fils. Nous avons besoin de toi. Fais cette œuvre en nous et au milieu de nous ce matin, nous te prions. Amen. Alors, juste quelques chapitres avant le passage que l'on a lu, au chapitre 10, Jésus avait envoyé ses disciples. Chapitre 10, verset 1, il envoie ses disciples en mission et il les envoie, verset 8, avec le pouvoir de chasser les esprits impurs, avec le pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité. Il dit: guérissez les malades, ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et ça, eh bien, c'est une mission et un défi que les disciples ont relevé. Ils sont partis en mission et ils ont accompli exactement cela. Les évangiles montrent que les disciples sont partis, qu'ils ont réalisé toutes sortes de guérisons et de grandes choses dans les villes, dans les villages de Samarie, de Judée et d'Israël. D'une certaine manière, tout allait bien. Rien ne semblait même pouvoir les arrêter, ces disciples, dans l'accomplissement de leur mission. Mais dans notre texte, problème, les disciples sont mis face à un défi apparemment insurmontable pour eux, voire même un petit peu humiliant. L'homme qui vient voir Jésus lui dit que les disciples n'ont pas réussi à guérir son fils gravement malade. Échec des disciples. Son fils était épileptique, nous dit le texte, et la description que le père fait de la maladie montre bien qu'il n'était pas simplement sujet à des crises d'épilepsie, mais qu'il y avait quelque chose de plus. Il n'avait pas simplement des convulsions de temps en temps, non, ces crises étaient comme délibérément destructrices pour lui. Vous avez vu la description où il était jeté régulièrement dans le feu ou dans l'eau, régulièrement mis dans d'extrêmes dangers. On imagine donc l'angoisse de ce père, on imagine l'inquiétude perpétuelle dans laquelle il se trouvait, le soin incessant qu'il devait prendre de son enfant pour le protéger. Il y avait clairement quelque chose de spirituel, de malsain derrière tout cela. Mais la réaction de Jésus quand cet homme lui apporte son père est assez étonnante. Au verset 17, il déclare « Gens mauvais et sans foi que vous êtes, combien de temps encore devrais-je rester avec vous? Combien de temps encore devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant ici. » On sent un Jésus un petit peu agacé quand même. On ne sait pas exactement à qui il s'adresse à ce moment-là. Est-ce que c'était simplement aux disciples qui étaient là ou à tous les gens qui l'entouraient? Mais ce que l'on sait, ce que l'on note, c'est que Jésus pointe l'incrédulité, l'absence de foi, comme étant le problème ayant empêché la guérison de cet enfant. Jésus, lui, en tout cas, a été capable d'identifier le problème qu'avait cet enfant et assez rapidement, il l'a guéri. Il l'a libéré du démon qu'il habitait et l'enfant a donc été guéri sur le champ. Verset 18. Miracle. Et on aurait pu s'arrêter là. C'est merveilleux. Jésus a réussi à faire ce que les disciples n'avaient pas réussi à faire. Il est tout puissant, il est merveilleux, il soigne, il guérit. Mais la discussion se poursuit et les disciples viennent vers Jésus en aparté, en particulier, dit le texte, pour pouvoir lui poser quelques questions. Et j'aimerais qu'on s'attarde maintenant sur cette conversation qu'il a avec ses disciples. Parce que les disciples, probablement troublés, vont demander à Jésus pourquoi eux ne sont pas parvenus à guérir cet enfant, ce démoniaque. Et c'est une très bonne question. Alors Jésus va leur répondre en mettant à nouveau en avant la petitesse de leur foi. Il dit, Jésus leur répondit, « Parce que vous avez trop peu de foi, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Déplace-toi d'ici à là-bas » et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. » Ok. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste « parce que vous avez trop peu de foi » ? Je pose la question parce que Jésus donne ici l'impression que les disciples auraient en eux-mêmes le pouvoir d'accomplir des miracles et des guérisons si et seulement si ils avaient suffisamment de foi, ou si et seulement si ils avaient davantage de foi. Si seulement leur foi était plus grande. Et c'est comme ça probablement que vous avez toujours lu ce passage, c'est comme ça que je l'ai lu moi aussi depuis que je le connais et avant que je m'y intéresse plus précisément. Mais en y regardant de plus près, cette interprétation-là, elle ne tient pas vraiment. Je ne suis pas du tout sûr que Jésus parle de quantité de foi ici, ou de taille de foi. Je crois même que ce n'est pas le cas. Non, parce que Jésus parle d'une foi aussi petite qu'une graine minuscule, mais suffisante pour accomplir d'immenses choses extraordinaires. Donc ce n'est pas vraiment la taille qui compte. Avoir trop peu de foi, ce n'est pas une question de taille, ce n'est pas une question de quantité de foi. Mais plus encore, ce qui me fait dire qu'il n'est pas question de quantité de foi ici, c'est que dans l'évangile de Matthieu, Jésus va utiliser encore et encore cette expression « avoir trop peu de foi ». Il va mettre en avant la petitesse de la foi des gens ou des disciples qui étaient avec lui. Et à chaque fois qu'il fait cela, à chaque fois qu'il utilise cette expression, c'est pour mettre en avant un obstacle à l'exercice de la foi. Je vous donne les exemples qui sont mentionnés par Jésus lui-même dans l'évangile de Matthieu. Déjà au chapitre 6, verset 30, il parle de l'obstacle à la foi qui est l'inquiétude. Il dit « Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ?» Vous voyez, l'inquiétude peut nous empêcher d'avoir la foi. En se concentrant sur nos inquiétudes, nous n'arrivons pas à exercer la foi comme il faudrait. Autre exemple, chapitre 8, verset 26, la peur. la peur comme obstacle à l'exercice de la foi des disciples. Face à la tempête, alors que les disciples sont dans la peur, il dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et un grand calme se fit. La peur peut nous empêcher d'exercer la foi. La peur peut prendre toute la place dans nos vies, si bien que nous n'arrivons plus à faire confiance à Dieu. Autre exemple encore, Matthieu 14, verset 31. Là, Jésus parle du doute comme obstacle à la foi. C'est dans ce fameux épisode où Pierre a rejoint Jésus sur les eaux en marchant. Extraordinaire. Mais Pierre, tout à coup, commence à se regarder les pieds et hop, il plonge. Il se retrouve dans l'eau, il s'enfonce. Et aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» On ne peut pas avoir foi, on ne peut pas faire confiance à Christ et douter en même temps. Ce n'est pas possible. C'est un obstacle à l'exercice de la foi. Et puis finalement, en Matthieu 16, verset 8, toujours donc dans l'évangile de Matthieu, Jésus critique les raisonnements humains des gens en disant « Pourquoi raisonnez-vous, gens de peu de foi ? Vous ne comprenez pas encore. » Avec une intelligence purement humaine, avec des raisonnements purement humains, on ne peut pas avoir l'intelligence qui vient de Dieu lui-même, que Dieu fait créer en notre esprit, en notre intelligence, pour que nous comprenions les choses de Dieu, pour que nous comprenions son message, pour que nous comprenions ce qu'il veut nous enseigner. L'intelligence humaine, non transformée, non renouvelée, est un obstacle à l'exercice de la foi. Voyez, dans chacun de ces versets, donc, ce n'est pas la quantité de foi dont il est question quand Jésus dit « gens de peu de foi ». Non, c'est d'un obstacle dont il est question. De quelque chose qui vient entraver la foi, l'exercice de la foi. Ces blocages que sont donc l'inquiétude, que sont la peur, le doute, le manque de renouvellement de l'intelligence. Mais alors pour revenir à notre texte, qu'est-ce qui a pu faire obstacle aux disciples dans l'exercice de leur foi pour que Jésus dise « gens de peu de foi » Pourquoi leur foi était-elle faible en ce sens? Jésus, en Matthieu 17, ne le dit pas explicitement, mais je vous offre ma théorie sur le sujet. Je dirais que c'est parce que les disciples avaient commencé à placer leur confiance non plus en Dieu et en sa puissance, mais en eux-mêmes. Je pense que l'obstacle à l'exercice de leur foi, c'était finalement leur orgueil. Ils avaient réalisé de grandes choses. Jésus les avait envoyés en mission. Ils avaient réussi à guérir des malades, à délivrer des démoniaques, peut-être même à ressusciter des morts. Ils s'étaient enorgueillis, je pense. Enorgueillis de leur réussite, de tout leur succès. Et cet orgueil était devenu un frein, oui, un obstacle à l'exercice de leur foi. Et du coup, la maladie de l'enfant était insurmontable pour eux. Ils ne pouvaient pas exercer leur foi. C'était une montagne infranchissable dans leur vie et dans l'exercice de leur mission. Jésus ne l'a pas dit, mais peut-être aurait-il pu dire « Bande d'orgueilleux, pourquoi avez-vous si peu de foi ?» Alors et nous, chers amis, frères et sœurs, quels sont ces obstacles ? Quels sont ces obstacles qui nous rendent incapables d'exercer notre foi face à ces montagnes dont je parlais en introduction, que nous avons peut-être pu identifier dans chacune de nos vies? Qu'est-ce qui vient faire obstacle à l'exercice de ma foi? Qu'est-ce qui fait que quand je vois cette montagne, je me dis « c'est impossible, je n'y arriverai jamais, je ne pourrai jamais la déplacer. Elle sera toujours là et rien ne changera jamais ça. » Est-ce que c'est le doute? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est des raisonnements humains? Est-ce que c'est l'orgueil? Est-ce que c'est autre chose encore? Seul vous pouvez l'identifier, bien sûr. Et Jésus nous dit que notre foi est trop faible quand nous laissons des obstacles nous empêcher d'exercer notre foi. quand nous choisissons de nous concentrer sur la peur ou l'inquiétude ou le doute plutôt que sur Dieu lui-même. Alors avec ça en tête, je pense qu'on peut plus facilement comprendre la suite des paroles de Jésus. Paroles difficiles à comprendre, elles aussi. Vous vous souvenez, hein, Jésus va rappeler que la foi véritable, quand bien même elle serait aussi minuscule que la plus petite des graines, cette foi-là est capable de déplacer des montagnes. Alors bien sûr, la première réaction face à cette déclaration de Jésus, c'est de dire « oui, bon, c'est ça ». Bien sûr, oui, oui. Il exagère, comme souvent. En fait, on comprend cette réaction, que je la comprends, qu'on a tous eu en lisant ce passage la première fois, mais il faut simplement savoir que cette expression « déplacer des montagnes », c'était une expression connue à l'époque, assez courante, et elle signifiait tout simplement « ôter des difficultés ». Déplacer les montagnes, c'est ôter des difficultés. Dans la langue de l'époque, dans les expressions de l'époque. Les interprètes bibliques, je vous donne juste un exemple, ils étaient appelés au 1er siècle des déplaceurs ou des éradicateurs ou des déracineurs de montagnes. Pourquoi ? Parce que, en tant qu'exégètes du texte, ils étaient capables de retirer les difficultés de compréhension que pouvaient avoir les gens face au texte. Des déracineurs de montagnes. Vous voyez ? Ils arrivaient à ôter des difficultés de compréhension pour les gens. Eh bien, Jésus rappelle ici à ses disciples que la foi, même microscopique, même aussi petite que la plus petite des graines, permet de déplacer, de déraciner ou d'éradiquer les difficultés qui se trouvent devant nous. Les montagnes qui se trouvent là, devant nous, dans nos vies. Mais comment ? Comment est-ce possible ? Eh bien, c'est assez simple, en fait. Si une foi microscopique est capable de déraciner des montagnes, d'immenses montagnes peut-être qui peuvent se trouver là devant nous, c'est parce que, encore une fois, ce n'est pas la taille ou la quantité de foi qui compte, mais son orientation. C'est l'orientation de la foi qui compte. Je m'explique. Jésus est en train de dire ici, et c'est très important, c'est que ce qui importe dans l'exercice de la foi, c'est qu'elle soit orientée vers Dieu. Vers Dieu. Ce qui importe dans la foi chrétienne, c'est le Dieu en qui l'on croit, n'est-ce pas ? Pas la taille ou la quantité de foi qu'on arrive à exercer. Non. Laissez-moi d'ailleurs vous donner une illustration toute simple. Si le soir, vous voulez voir la lune de chez vous, dans votre maison, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes dans votre maison et il y a la pleine lune. Vous dites, j'ai envie de voir la lune. Que faites-vous ? Alors, vous pouvez sortir, mais en restant dans la maison, vous faites quoi ? Vous allez à la fenêtre, voilà. Évidemment. Mais on est bien d'accord que une grande fenêtre ou une petite fenêtre est suffisante, voire même un tout petit trou dans le mur est suffisant pour voir la lune, à condition que la petite fenêtre ou que le trou soit bien orienté. Il ne sert à rien d'aller vers la grande baie vitrée qui se trouve de l'autre côté de la maison si la lune est là. Ce n'est pas la taille, la quantité, mais l'orientation qui compte. Qui est importante. Et je pense que c'est aussi cela, la foi chrétienne. Une foi, même petite, même naissante, même embryonnaire, même minuscule, mais orientée vers Dieu, peut produire des effets extraordinaires, peut produire de grandes choses. Voilà le message que veut faire passer Jésus. Oui, cette foi, puisqu'elle a Dieu en ligne de mire, puisqu'elle le fixe lui et lui seul, permet de vivre de grandes choses avec Dieu. Non pas par elle-même, comme s'il y avait une sorte de puissance inhérente à la foi, mais justement parce que c'est Dieu qui est l'objet de cette foi. Justement parce qu'elle est orientée exclusivement vers lui, vers le Dieu de Jésus-Christ, vers le Dieu qui est tout-puissant. est capable de faire des exploits et des miracles. Le Dieu qui prend soin, qui veut prendre soin de ses enfants. Le Dieu qui veut guérir de toutes les maladies. Ce Dieu, on le sait, mais ça vaut le coup de le redire. Alors je le redis. Ce Dieu, il est plus grand que les plus grandes montagnes qui se trouvent là, présentes devant vous dans votre vie. Il est plus puissant que les plus dévastatrices des tempêtes. Il est plus sage que le plus fameux des philosophes. Et il est plus aimant, plus attentionné que la plus merveilleuse des mères. C'est lui notre Dieu. C'est vers lui que doit s'orienter notre foi. Voilà donc l'enseignement de Jésus pour ses disciples. C'est vers Dieu et lui seul que Jésus veut que nous orientions sans cesse notre foi. Quand bien même la montagne est immense devant nous, dans notre vie, la foi en Dieu est possible. Et toujours, Dieu est là, face à nous, disponible, atteignable, prêt, disposé à aider, disposé à guérir, disposé à soigner, disposé à transformer nos vies. Et si nous orientons notre foi correctement vers lui, après avoir déposé ce qui nous retient d'exercer cette foi, alors nous pouvons nous attendre à de grandes choses de sa part. C'est la promesse que fait Jésus dans ce texte. Frères et sœurs, je ne sais pas quelle est cette montagne que vous avez identifiée tout à l'heure dans votre vie personnelle, dans votre vie communautaire. Cette montagne qui vous empêche d'avancer avec Dieu, cette montagne qui vous empêche de vivre vraiment la vie que Dieu attend de vous, qu'il veut vous offrir. Je ne sais pas ce qui vous empêche de vivre à fond votre appel, votre vocation chrétienne. Je ne sais pas ce qui vous fait douter peut-être, ou vous fait peur. Je ne sais pas ce qui vous tire vers le bas, vous empêche de vous concentrer sur Dieu. Mais, quels que soient nos obstacles, et je sais qu'ils peuvent être très grands, et voire immenses, je ne sais pas quelles sont nos montagnes, mais quelles qu'elles soient, je sais une chose, ces montagnes, ces obstacles ne sont pas des absolus. Et ça, c'est important de le dire. Ce ne sont pas des absolus parce que Dieu est plus grand que nos plus hautes montagnes, parce que par la foi, nous pouvons effectivement les transporter. C'est la promesse, c'est le message de Jésus pour nous ce matin. Alors bien sûr, pas toutes les montagnes, pas tout et n'importe quoi. C'est pas ça non plus que Jésus veut dire ce matin. Mais tous ces obstacles qui me barrent la route vers Dieu, évidemment que Dieu veut que nous les déplacions. Tous ces obstacles qui s'opposent à la réalisation du projet de Dieu dans ma vie, évidemment que Dieu veut retirer ça. Toutes ces montagnes qui viennent entraver l'avancement de son règne, ici à Clermont ou dans ma vie tout simplement. Évidemment que Dieu veut que nous déplacions ces montagnes. Tout ce qui s'oppose à sa volonté donc. Oui, oui et encore oui, Dieu désire que nous placions notre foi en lui, que nous orientons nos regards vers lui pour que ces montagnes soient éradiquées. Par la foi, si nous laissons de côté nos peurs, nos doutes, nos inquiétudes, nos raisonnements humains, nos intelligences non encore renouvelées, alors oui, ou notre orgueil, alors oui, nous pouvons transporter ces montagnes, toutes ces montagnes qui se dressent devant l'action de Dieu dans nos vies. Quand nous fixons nos regards vers lui, elles disparaissent. Elles ne sont plus opérantes. Elles ne sont plus toutes puissantes. Elles ne sont plus absolues. Parce que nous croyons que le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu qui a vaincu la mort, le Dieu qui a éradiqué le péché, le Dieu qui veut offrir la vie en abondance à tous ses enfants, ce Dieu-là, le Dieu de notre foi, est bien plus opérant encore que nos plus grandes montagnes. Alors mon frère, ma sœur, ce matin, sache-le, c'est un des plus grands mensonges, un des plus grands mensonges de l'ennemi de nous faire croire qu'il est tout-puissant. et que Dieu ne peut rien pour nous. Que les montagnes qui se dressent devant nous sont trop hautes et que jamais nous ne pourrons les déplacer. Ce matin, je veux t'encourager, qui que tu sois, à ne pas croire ce mensonge. Ce matin, je veux t'encourager à fixer tes regards sur Christ et à ne pas perdre courage, à ne pas t'enfoncer dans la peur ou dans le doute, dans l'inquiétude. Parce que Christ est mort pour te donner la vie, parce que Christ est mort pour créer son Église et pour qu'elle soit agissante, rayonnante dans le monde. Il ne veut pas que tu sois enchaîné dans la peur et le découragement. Non, il est mort pour déverser sa vie, la vie éternelle, la vie abondante sur toi et sur son Église. Voilà ce que Christ a réalisé. Et grâce à cela, tu peux déplacer des montagnes. Amen. Je vous invite à prier quelques instants.